Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Au cinéma, ce mercredi, le retour de Will Smith dans Bad Boys et l'adaptation du best-seller d'Anna Gavalda. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part avec Jean-Paul Rouve. Stéphane Boutsock a rencontré le comédien. Révélé sur scène, Suzanne publie son premier album. Toy Toy, c'est comme ça.
Toy Toy, voilà. C'est de l'allemand.
La jeune chanteuse s'est confiée à Stephen Bellery. Nous écoutons également le premier extrait du prochain album de Kali, Les Express du jour, avec Émeric Partenot. Et puis à la télévision ce soir, le documentaire Dorothée, Hélène et les garçons, Génération AB Productions, c'est sur TMC. Et c'est l'un des choix d'Isabelle Morini-Boss.
On est là.
Ah oui.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Cette bande de gamins. Nous parlons cinéma pour commencer avec vous, Stéphane Boutsock. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Avant de passer en revue quelques-unes des nouveautés à l'affiche, on fait les comptes. Donnez-nous, s'il vous plaît, les chiffres du box-office de la semaine.
Avec nos amis du site cbo.fr, formidable démarrage chez nous aussi pour 1917, la fresque de Sam Mendes sur la Grande Guerre. Déjà près de 650 000 entrées en une seule semaine.
Ah bah, tous mes amis qui l'ont vu, dont vous, ont adoré.
Non, mais c'est formidable. Compliqué. Star Wars 9, résiste autant, la barre des 5 700 000 spectateurs est largement franchie en 5 semaines. Pour Les Misérables, le cap des 2 millions est maintenant passé. Enfin, pour les nouveautés, démarrage poussif, un petit peu comme le film. Pour une belle équipe de Mohamed Hamidi qui n'a amusé que 150 000 personnes environ.
15 nouveaux films débarquent sur nos écrans ce mercredi et parmi eux, Stéphane, vous avez un gros coup de cœur pour Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. C'est l'adaptation du recueil de nouvelles d'Anna Gavalda, best-seller de l'année 1999 et Grand Prix RTL Lire en 2000.
Oui, c'est un tour de force tenté et réussi par le réalisateur Arnaud Viard, parce qu'en effet, le livre d'origine rassemblait des récits indépendants. Lui parvient à en faire une seule histoire, avec certes des axes différents. Nous sommes à la fin de l'été dans une jolie maison de famille où Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants. Jean-Pierre, devenu par la force des choses le chef du clan. Juliette, qui attend son premier enfant à 40 ans et rêve de devenir écrivain. Margot, artiste engagée. Et Mathieu, en quête d'amour. L'un d'entre eux va décider de brusquer le destin et sa décision remettra en cause en fait la vie de toute la famille. C'est un film merveilleusement écrit, finement réalisé et porté par une troupe d'acteurs au diapason. Alice Taglioni, Elsa Silberstein, Benjamin Laverne qui définitivement est un génie, Aurore Clément ou encore Jean-Paul Roux. C'est lui qui incarne Jean-Pierre, l'aîné de la tribu, homme écrasé par son rôle et ses regrets.
Quand on fait un métier comme le mien, où on fait un métier qu'on a rêvé, on ne devient pas artiste par défaut. On devient artiste par choix, en général. Et puis moi, j'ai la chance que c'est fonctionné. Je fais ce dont je rêvais quand j'étais adolescent ou enfant même. Et souvent, je me suis dit, mais et si ça n'avait pas marché? Si j'avais pas réussi à concrétiser mes rêves, qu'est-ce que je serais devenu? Est-ce que j'aurais eu des regrets? Est-ce que j'aurais été heureux? C'est Souchon, quoi. Tu la voyais pas comme ça, ta vie, pas d'attaché caisse quand t'étais petit. Donc ce personnage vit ça en fait, mon personnage, il vit ça parce qu'il voulait faire du théâtre quand il était jeune, et puis d'un seul coup la vie fait que, ben non il en a pas fait, et puis il a une vie, une autre vie, et ça à 50 ans, ben ça lui revient, il a un retour de bâton énorme dans la gueule.
Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part d'Arnaud Viard, que nous avions découvert en août dernier au Festival d'Angoulême, avec notamment Jean-Paul Rouve, qui a un programme chargé. Le mois prochain, début du tournage d'un film fort différent mais très attendu, Les Tuches 4.
Oui, Fred.
Très impatient.
Pas le même univers.
Et ensuite, il adaptera le roman de David Foenkinos avec David Foenkinos, Deux Sœurs. Autre joli film du jour, le photographe du cinéaste indien Ritesh Batra, qui avait enchanté le public avec The Lunchbox en 2013, eh bien, elle continue d'explorer les règles, les rites de la complexe société indienne avec cette fois la rencontre entre un photographe célibataire et pauvre qui va proposer à une jeune femme plus aisée, photographiée dans la rue par hasard, de jouer le rôle de sa fiancée pour rassurer sa grand-mère, inquiète de le voir rester célibataire. Ça part comme un vaudeville, ça devient charmant, profond et émouvant.
Au rayon des grosses sorties, Stéphane, vous nous parlez aussi de Bad Boys for Life.
Oui, dans lequel Will Smith et Martin Lawrence retrouvent pour la troisième fois leur personnage de flic décomplexé de Miami, réunis pour une ultime enquête et confrontés au temps qui passe, au regret, à l'idée de la retraite et surtout un ennemi vengeur. Ça n'a pas un intérêt majeur, mais c'est très bien fait. On est entre gag et action avec ce qu'il faut de nostalgie bienveillante, comme on dit. À la production, le célèbre Jerry Bruckheimer, l'un des grands Manitou du Hollywood des années 80, 90, 2000. On lui doit Pirates des Caraïbes, Top Gun, Le Flic de Beverly Hills au cinéma et à la télé. les experts, cold case ou FBI porté disparu. Bref, un homme qui a du pif, celui du bon concept et du billet vert. C'est lui qui vous présente ce troisième volet de la saga.
Les gens aiment le divertissement et quand vous avez ces deux magnifiques acteurs à nouveau réunis, plus matures, aussi drôles, c'est très excitant pour le public mais aussi pour moi de faire un film comme celui-ci. Mais si vous n'avez pas vu les deux premiers Bad Boys, ce n'est pas grave, vous plongerez dans l'action, vous adorerez ces personnages et ce qui leur arrive. En fait, c'était aussi marrant qu'il y a 20 ans. Ils se sont amusés sur le plateau pour faire plaisir au public. Alors il y a un enjeu dramatique dans le film, mais traité avec humour et en sortant. Pourtant, vous aurez passé un super moment avec ces deux mecs qui vous semblent totalement familiers. C'est aussi simple que ça.
Bad Boys for Life, à voir au cinéma ce mercredi.
On reste aux États-Unis, Stéphane, avec Scandale, hein, qui, comme son nom l'indique, revient sur une des affaires de harcèlement sexuel les plus fameuses de la télévision américaine.
Oui, celle qui a coûté sa place à un homme que l'on pensait pourtant inatteignable, Roger Ailes, tout puissant patron de la chaîne Fox News, accusé d'avoir agressé plusieurs de ses journalistes féminines en échange de la promesse d'une promotion. Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie incarnent ces femmes qui ont osé dénoncer les faits avant que le mouvement MeToo ne s'impose. Scandale est un film militant et nécessaire, coproduit par Charlize Theron, elle-même très engagée, on le sait, dans la cause féministe. Elle constate que les choses commencent à changer parce qu'on parle désormais de ces dossiers.
Avec le recul, nous comprenons combien ces histoires sont universelles, car ils s'en révèlent de plus en plus. Les gens en parlent, c'est aux infos. Et je peux vous dire que c'est formidable de pouvoir revenir aux origines, à ces femmes qui ont catapulté tout cela à la une. C'est vraiment le cas originel, environ un an et demi après éclatait l'affaire Harvey Weinstein. C'est vraiment un tournant essentiel. Avoir pu déclencher tout ce bruit qui résonne encore est magnifique. Plus personne ne nie les choses ou ne peut les ignorer. Après, comment faire? Le film devait être divertissant tout en vous bouleversant, en vous rendant fou de colère. Mais il fallait aussi que l'on puisse rire de tant d'absurdités. Et c'est ce qui se passe.
Charlize Theron, nommée à l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle assez bluffant de Megyn Kelly, star de la Fox, de Fox News, partie en guerre contre le harcèlement sexuel. À voir cette semaine, donc, dans Scandale, le film de Jay Roach.
Voilà pour notre semaine au cinéma. Dans un instant, toute l'actualité musicale avec Stephen Bellery.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Toute l'actualité musicale à présent avec Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
On commence par le retour de Khalil, il dévoile ce matin une nouvelle chanson. Stephen.
Un petit peu plus d'un an après son hommage à Léo Ferré, Khalil vient de terminer l'enregistrement de son 8e album de chansons inédites. Un projet baptisé Cavale et qui marque un léger virage vers une pop teintée de sonorités électro. Un envol bienvenu après plusieurs disques introspectifs et un petit peu trop épurés on va dire. Voici le premier extrait, la chanson s'intitule « Je dois encore vivre ».
J'en veux encore un peu, on peut aimer à en crever. Je dois encore vivre, encore un petit peu. Je dois toucher le feu, le feu, le feu, encore être amoureux. Je dois encore vivre, je dois encore. Le feu, le feu, et puis je partirai. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux encore aimer. Et je croirai au Dieu, au Dieu, au Dieu, au Dieu que vous voulez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'en veux.
Je dois encore vivre sans la liaison. Premier extrait du prochain album de Khali, Cavale, paraîtra le 6 mars. Khali partira en tournée dans la foulée, un passage déjà prévu à la Gaîté Lyrique à Paris le 22 avril.
On poursuit avec la sortie vendredi de Toy Toy. C'est le premier album de la chanteuse Suzanne. Un nouveau talent à suivre de très près, Stephen.
Oui, elle est d'ailleurs nommée aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation scène. Et pour cause, elle s'est construite à l'ancienne, par le live. Suzanne a déjà donné plus de 200 concerts concerts ces deux dernières années. Artiste la plus programmée l'été dernier dans les festivals, elle a très vite conquis un public grâce à sa chanson française très écrite et chantée sur des rythmes électro. Exemple avec Monsieur Pomme.
T'as pas dit bonjour à ta femme que t'es déjà sur ton téléphone. Tu lui réponds c'est pas un drame, on parlera quand je te sonne. C'est l'heure de poster ton cliché, comme d'habitude t'en fais des tonnes. Si les voyeurs ont l'œil rincé, pourvu que les envieux s'abonnent. À la page de ta vie rêvée, tu la vis pas, mais tu fais comme. Si tout allait bien, mais en vrai, tu sais déjà qu'il y a mal donne. Pour une poignée de pouces levés, ton intimité, tu la donnes à des anonymes abonnés, hashtag raconte ta vie.com. Ta vie en scène, elle en devient moins saine. Ta vie en scène, c'est qu'une mise en scène. En scène, ta vie en scène, elle en devient moins saine. Ta vie en scène, elle en devient obscène. Obscène.
Les mots font mouche, la production n'écrase pas les thématiques actuelles des chansons. Suzanne dénonce le harcèlement sexuel, l'homophobie, le réchauffement climatique, l'addiction au téléphone portable, la dictature des corps parfaits. La chanteuse de 29 ans s'est inspirée d'histoires vraies. Tous ces textes ont en effet été griffonnés derrière un comptoir. Rencontre avec Suzanne.
J'ai toujours su que je voulais écrire des chansons, mais le temps que j'ose le faire, ça a mis du temps. Et je pense que c'est en arrivant à Paris, quand j'étais serveuse dans le 20e, où tout à coup ça a été une urgence d'écrire, vraiment, c'était devenu, ça me réveillait la nuit. Donc je me suis dit, ok, arrête d'écrire, de tout jeter, tu écris une chanson jusqu'au bout. Et c'est vrai que l'inspiration est venue assez vite, en fait, parce que j'étais dans un contexte où je voyais les gens, je voyais la société, j'entendais des discussions malgré moi. Donc je pense qu'à cette époque, j'étais vraiment une éponge. Ouais, une espèce de chroniqueuse du quotidien, quoi. C'est vrai qu'on me dit souvent ça, on me dit que j'ai une écriture un peu naturaliste aussi, de vouloir mettre toujours l'homme au centre des histoires. Et c'est vrai que je pense que je regarde beaucoup les gens autour de moi, et ça c'est un truc que je fais déjà depuis toujours, qui se ressent dans ma musique, je pense, aujourd'hui.
Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête, on surchauffe. Pour me casser la planète, il est où le SAV? Pour me casser la planète, et ça tout le monde savait.
Voilà, il y a des chansons qui sont assumées beaucoup plus chansons françaises. Il y en a d'autres où j'assume l'électro à fond. Et la petite touche urbaine, parce que j'écoute aussi de l'urbain. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait mon ADN. Quand j'ai découvert l'électro, je venais d'arrêter le conservatoire. Ça faisait 10 ans que j'étais dans un conservatoire de danse où j'allais tous les jours à la barre. Je faisais tous les jours les mêmes exercices, pratiquement. Et à ce moment-là, j'ai troqué ma barre de danse classique pour aller dans des clubs avec mes copines qui ont enfin réussi à me traîner dans des discothèques. Et c'est vrai que c'est là où j'ai découvert Daft Punk. Et je me suis dit que cette musique électro, elle avait un pouvoir, je trouve, de faire lever les gens, en fait, de les faire danser, de les faire lâcher prise.
Voilà. Mylène Farmer, je crois aussi, ouais, a eu une importance dans votre parcours.
Complètement, Mylène Farmer, c'est une artiste qui m'a donné envie de faire ce métier, inconsciemment, parce que j'étais devant ma télé, j'étais gamine, je regardais le Hit Machine, et c'est vrai que ses chansons m'ont bercée, et quand je l'ai vue à la télé, je me suis dit, je veux faire comme elle plus tard, voilà, je veux pas être la danseuse derrière, je veux être comme Mylène.
D'être un 40 pain 36, puisque nos corps sont des chiffres, soustraits à des standards. Entrer dans le moule, on s'abîme. Se courbe aux lignes des magazines. Garder la ligne, c'est tout un art. Et moi, ça me pèse, est-ce que ça te pèse? Et 1 kg, 2 kg, 3 kg. Et quand je monte sur la balance, elle me balance que je suis pas beau. Et 1 kg, 2 kg, 3 kg. Et quand le miroir me tourne le dos, je me sens à l'étroit dans ma peau. Et 1 kg, 2 kg.
Pas beau, chanson sur le traumatisme qu'a vécu Suzanne, gamine au conservatoire de danse, à devoir passer sur la balance chaque mercredi. Allez découvrir son univers, vous la reconnaîtrez à sa combinaison bleue, inspirée de la fureur du dragon avec Bruce Lee, ses clips ultra léchés ou ses cheveux rouges coiffés en carré. Elle s'appelle Suzanne avec un seul N. Vous allez en entendre parler. Son album Toy Toy paraît vendredi. Toy Toy, c'est une expression allemande qui veut dire bonne chance dans le domaine artistique.
On termine par Gregory Porter. Alors c'est une voix que j'adore. Hein. L'Américain sera de retour au printemps avec un nouvel album, Steven.
Après avoir brillé au rayon jazz, Gregory Porter butine du côté de la soul dans sa toute nouvelle chanson, prélude à son 6e opus programmé le 17 avril. Voici le rythmique et très efficace Revival.
I'm trying to find you. Ooh.
Formidable retour de Gregory Porter, album All Rise le 17 avril. Et je vous amène, Yves, si vous voulez, scène musicale près de Paris le 17 juin.
Allez, allez. Oh là là, j'aime bien quand ça se termine comme ça. Merci beaucoup, Steven Bellery. Voici maintenant nos express du jour préparés par Aymeric Partenay.
Les express LVT.
Bonjour Aymeric.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Le projet pharaonique du cinéma français Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, se précise avec le nom de la prochaine actrice qui incarnera Cléopâtre.
Oui, alors c'est l'acteur et réalisateur Guillaume Canet qui sera aux manettes de ce prochain Astérix, dont l'intrigue se déroulera tout naturellement en Chine, l'Empire du Milieu. Guillaume Canet et Gilles Lelouch camperont le duo de guerriers gaulois iconiques Astérix et Obélix. Il régnera une ambiance familiale et très les petits mouchoirs sur le plateau, hein, puisque Guillaume Canet s'est entouré de proches. C'est Marion Cotillard qui jouera le rôle de la reine d'Égypte, voilà. Cléopâtre. L'actrice oscarisée et accessoirement épouse du réalisateur aura donc la lourde tâche de reprendre le costume porté par Monica Bellucci dans l'inoubliable comédie d'Alain Chabat sortie en 2002, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Alors le budget du film est comme toujours avec la franchise très impressionnant, 65 millions d'euros annoncés, un peu plus qu'au service de sa majesté, un peu moins qu'Astérix aux Jeux Olympiques qui affichait un insolent budget de 78 millions d'euros. On se croirait presque à Hollywood.
Florence Foresti continue sa tournée triomphale épilogue et elle s'exporte à l'international.
Oui, voilà un petit peu d'Hollywood là aussi. Vous pourrez l'applaudir, l'humoriste, à Londres, Montréal, New York et Miami, rien que ça. Des dates uniques en avril 2020. N'essayez pas de prendre l'Eurostar, hein, la date londonienne est déjà complète. Mais nos amis nord-américains auront le plaisir de l'entendre se lamenter sur son grand, grand âge.
D'ailleurs, c'est ça, hein, vieillir, t'enlèves tous les adverbes, les adjectifs de ta vie. Hein. Avant, je me disais, allez, essaye de bien dormir. Maintenant, je me disais, essaye de dormir. Je me supplie. Allez, passe une bonne journée, passe une journée. Hein ? Allez, allez ! Allez, Forest, on y croit.
Que donne le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express ?
Alors, dans la catégorie roman, Pierre Lemaître caracole toujours en tête avec Miroir de nos peines. Il est suivi de Jean Echenoz en progression de deux places avec Vie de Gérard Fulman. Sylvain Tesson complète le podium avec La Panthère des Neiges. Du côté des essais et documents, c'est Le Consentement de Vanessa Springora sur l'affaire Matzneff qui reste numéro 1. Deux autres ouvrages font leur entrée cette semaine aux deuxième et troisième places. Le Djihadisme français de Hugo Micheron et Le Siècle Vert de Régis Debray.
Palmarès complet à découvrir demain dans l'Express, puisque l'hebdomadaire paraît désormais le jeudi.
Absolument.
Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, eux, ne se quittent plus. Ils vont se réunir pour un nouveau projet qui nous fait déjà saliver.
Oui, alors ils ont déjà joué ensemble dans Blessure Secrète, par exemple, en 1993. Et depuis, leur carrière s'entremêle. C'est Martin Scorsese qui va réunir les deux géants du cinéma dans son prochain projet, Killers of the Flower Moon. Il s'agit d'une adaptation d'un roman éponyme de David Gran. Ça s'appelle La Note américaine en français, basée sur une sombre histoire de meurtre dans une réserve indienne située dans l'Oklahoma. David Gran est déjà l'auteur du livre La Cité perdue de Z, brillamment adapté au cinéma par James Gray en 2016. Le scénario de Killers of the Flower Moon est signé Eric Ross, qui est le scénariste de A Star Is Born ou encore Forrest Gump, rien que ça. Et le tournage de ce film doit commencer au printemps.
Ce soir, dans le 12e arrondissement de Paris, les chanteurs et artistes se mobilisent pour soutenir les grévistes et leurs familles.
Oui, ça se passera sous le chapiteau du Cirque Phoenix. Mmh. C'est organisé par la CGT, 10 euros l'entrée à 19h. Tout sera bien sûr reversé aux grévistes et à leurs familles. Et parmi les artistes qui seront présents, il y aura Kali, dont on vient de parler, Imani, Yvan Le Bolloc ou encore le chanteur Gauvin Cers.
C'est sûr que cette réforme me paraît assez injuste, mais c'est au-delà de tout ça, c'est plus une politique générale. J'ai le sentiment que voilà, il y a de plus en plus de gens qui se sentent exclus, de plus en plus de gens qui se sentent mal considérés. Et j'ai l'impression que les fossés en général s'agrandissent entre les gens et que voilà, je crois que c'est important d'apporter ma solidarité en tant qu'artiste et de joindre les actes aux paroles. Voilà, je chante pour les oubliés, exactement.
On est les oubliés. champagne, les paumés.
Gauvin Serre qui chantait Les Oubliés au micro de Steven Ballery.
Merci beaucoup, Aymeric. C'était donc Les Express de Lycée Boutanté. Nous allons nous intéresser à nos programmes télévisés ce soir, notamment sur M6 dans un instant.
Je reçois.
RTL Matin.
Lycée Boutanté.
Avec Yves Calvi.
La télévision ce soir, Isabelle Morini-Bosque. Alors, je sais que vous êtes accro à Stéphane Plaza sur M6.
Oui, alors vous verrez, il recherche ce soir un pied-à-terre pour Omar, un ex-footballeur argentin qui va évidemment droit au but. C'est toujours savoureux, on a beau dire.
Oui, j'ai bien compris. Mais vous avez également beaucoup apprécié les vies d'Albert Camus sur la 3.
Oui, hélas, écrivain inconnu des jeunes. Et pourtant, quel destin romanesque bien raconté dans ce document réussi où on rappelle que Camus, autant de maîtresses sur Terre qu'à de constellations dans le ciel, qu'il se rêvait grand footballeur et qu'il faillit le devenir, oui. Que le prix Nobel obtenu en 57 lui provoqua des crises d'angoisse incoercible et qu'il haïssait Sartre, le staliniste obstiné. Il est mort dans un accident de voiture il y a 60 ans et on peut considérer que c'est son seul véritable dramatique écart de conduite, forcément. C'est un vrai, vrai bon document. Cela étant dit, pardon, je voudrais saluer, parce que j'ai l'esprit de suite, la fin de Fête des Gosses sur France 2, ce feuilleton montrant le quotidien de trois familles unies par leurs enfants et par leurs ennuis. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, comme dit la chanson, leur possible, comme par exemple l'agent immobilier qui, sa femme s'émancipant, doit conduire lui-même les enfants à l'école flanqué de sa mère.
Allez, dépêche-toi, j'ai jamais été en retard de toute ma vie, il est 9h20, je vais mourir de honte.
Bon, tais-toi et cours.
Va, mes chaussons.
Quoi, tes chaussons? Oh merde.
T'es bien en chaussons? Eh ben tu les gardes, hein, tu vas pas te faire renvoyer pour ça, hein.
Merci maman, t'as raison. Allez,
oui,
on repart.
Non, de mon temps, on assumait très bien d'être de mauvais parents.
J'adore cette phrase.
C'est trop. Alors, votre coup de cœur, c'est Génération AB Productions sur TMC ce soir.
Oui, titre exact, Dorothée Hélène et les garçons, Génération AB Productions, du nom de cette société qui, de 1978 à la fin des années 90, a dominé les programmes jeunesse pour 6 millions de téléspectateurs. Tout commence avec Jean-Luc Azoulay, étudiant en médecine, fan de Sylvie Vartan, dont il devient le secrétaire et ami de Johnny aussi. Oui. Via Sylvie, il croise un autre jeune pied noir dont le père a réussi, Claude Berda. Mmh. Et pourquoi pas eux réussir dans la musique ?
C'était l'époque du disco. Moi, j'avais dans mon subconscient Mustapha, chanson de mon enfance. Je dis, tiens, on va faire Mustapha en disco. Ça a été un succès absolument phénoménal. Moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde et on décide de me fonder AB Productions. Une année au Midem, on se partage une pizza aux fruits de mer. Je mange une moule avariée sans doute et je me retrouve avec une hépatite virale au lit pendant 2 mois. Je regarde la télé et je vois une speakerine très sympathique qui présente des dessins animés, Dorothée et ses amis.
Bonjour, dès aujourd'hui commence un programme qui va me permettre de te présenter mes amis.
Et c'est parti, Claude Berdin-Boulan de l'international Dorothée, seul stimule moyen. Jean-Luc Azoulay s'obstine, elle veut simplement chanter pour les enfants, c'est un tabac. Et subséquemment, Disney lui fait chanter l'adaptation française de ce classique.
Roxy Rookie, deux petits amis, petits bébés chiens, renard orphelin.
Ça fait un carton, hein, 2 millions d'exemplaires, 1 million 2, 1 million 3, je ne sais plus combien. Donc là, c'est parti.
Allô, allô, monsieur l'ordinateur.
Voilà, et puis il y aura Elle est amoureuse, son plus gros succès. Elle fera 56 Bercy, hein, Dorothée. Mais quand
c'est
elle passe en 87 sur TF1 privatisé, absolument, on l'a dit, vendu au fric, moi je l'ai toujours défendu, hein. Le jeune public, lui, adule, adhère, adore les mangas que AB s'est octroyé à bas prix. Ségolène Royal s'indigne alors, elle qui n'a jamais regardé.
Il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Et chaque programme diffusé dans le club Dorothée sur TF1 est surveillé par des psychologues.
Une équipe de psychologues qui visionnait tout ce qu'on diffusait.
Absolument, l'équipe de psychologues visionnait tout et eux faisaient des coupes quand ils l'estimaient nécessaire. Ouais. C'était la réponse de Dorothée, donc inaltérablement discrète et secrète, protégée par Jean-Luc Azoulay qui, après avoir créé une série autour des Musclés, l'orchestre du club Dorothée, a lancé d'autres sitcoms qui en sont toutes dérivées, notamment Hélène et les garçons, encore là 30 ans plus tard, avec toujours Jean-Luc Azoulay, sorte de Rémi Brica de la production télé. C'est lui l'auteur, il fait presque tout entouré de son équipe, il aime le public qui le lui rend, notamment les trentenaires qui, contrairement à leurs aînés, subliment leurs années Dorothée, comme Gims, la bande à Fifi, Amel Bent, au point que j'ai rappelé hier Jean-Luc Azoulay pour lui faire remarquer.
Eh ben, c'est ce qui est amusant, mais vous savez, c'est Johnny Hallyday qui m'avait dit ça, dans les années où tout le monde attaquait le club Dorothée, on était venu boire un verre à la maison, il disait, Jean-Luc, t'en fais pas, tu sais, regarde-moi, au début, j'étais Johnny, le blouson noir, le mauvais garçon, le rock'n'roll, c'était vraiment pas bien, et maintenant tout le monde m'appelle Monsieur Hallyday, il me dit, attends un peu, tu verras, on t'appellera Monsieur Azoulay dans quelques temps. Il avait raison.
Absolument. Et on termine. Je signale que Steven et Amérique étaient en train de parler de leurs années
Dorothée.
Et on termine avec Hélène et les garçons.
Tu serais prêt à tout abandonner pour une fille, toi ?
Non, une fille, non. Pour Hélène, pourquoi pas ?
Je suis une fille. Comme les autres.
On est tous vieux maintenant. Aussi. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein.
Action.
Je suis trop contente.
Ils ont bien vieilli, on peut pas dire. Et honnêtement, c'est Jean-Luc Azoulay vraiment. Est un mec intelligent qui bosse bien. Et moi aussi, j'ai mes années Dorothée. D'autant que j'ai toujours défendu Dorothée parce qu'elle a vraiment été insultée de façon incroyable et de façon totalement injuste.
Vous nous avez donné un bon coup de fraîcheur.
59 Bercy.
59 Bercy, 59, c'est hallucinant.
Hein. Lui se souvenait de 56, Jean-Luc, et on a reconté ensemble. On est arrivé à 56, 57. On n'était pas complètement sûr.
Il y en a eu quelques-uns, pas longtemps.
C'est inégalé pour une chanteuse.
C'est devant Mylène Farmer.
Et elle remplissait. Bon. Moi, j'y étais, je peux vous dire qu'elle remplissait. C'est un incroyable phénomène.
Bon, Julien Courbet, lui aussi, remplit les salles, vous le savez, on va le retrouver dans un instant.
RTL.
Il est 9h30 et donc content de retrouver Julien Courbet.
Bonjour. Oui, vous m'avez l'air en grande forme.
On est de bonne humeur.
Bravo pour les audiences. Oui, 200 000 en plus, ouais, ça se prend.
Vous voyez, on est en train de calculer si l'émission est diffusée à peu près.